entre les lignes.
On parlait du sportif donc il y a quelques minutes, on a commencé à évoquer un petit peu les côtés plus structurels, environnementaux et surtout donc économiques, parce que c'est tout aussi important pour un club. Donc on va se plonger un petit peu dans les rouages IC1. Nicolas, ton intarissable curiosité a donné naissance à quelques questions justement pour Christine Aubert.
Oui, bah du coup on avait déjà commencé à évoquer le côté économique tout à l'heure. Moi je voulais un peu revenir avec vous sur les 6 premiers mois de votre relation avec votre nouveau partenaire, le département du 92. Comment ça se passe? Comment ça évolue sur ces 6 mois compliqués en temps de Covid?
Bah écoutez, c'est un partenariat très positif pour le club, un partenariat d'avenir hein, qui est tourné vers l'excellence évidemment, mais également un investissement sur les jeunes générations dans le cadre du projet sportif, hein, socio-éducatif également. Voilà, on va dire que aujourd'hui le département est très présent, nous soutient même dans la difficulté. Alors c'est vrai que c'est pas simple parce que on ne peut pas accueillir de public, on peut pas développer le partenariat comme on aimerait le développer, mais le département ne nous lâche pas, bien au contraire, et nous soutient, mais alors vraiment très positivement, et c'est un acte majeur pour le club, parce qu'on sait très bien que l'activité du sport de haut niveau fait cohabiter un modèle économique et sportif dans un même projet, évidemment, mais pour s'installer dans l'élite, hein, il faut pérenniser son modèle économique, et c'est ce qui assure aussi hein, une progression sportive maîtrisée. Donc voilà, le département continue de nous suivre et j'espère vraiment qu'on arrivera à se maintenir pour faire en sorte qu'on puisse continuer à construire ce qu'on a mis en place avec nos partenaires tels que le département et Grand Paris Seine-Ouest et la ville d'ici, avec la Cité des Sports qui va arriver, qui va nous permettre enfin d'avoir un écrin digne d'un club de haut niveau à Issy-les-Moulineaux. Voilà, on peut dire qu'aujourd'hui, c'est une grande satisfaction pour nous et que sans le département, sans ces partenaires-là, on aurait eu du mal à exister.
Justement, je comptais l'évoquer, la Cité des Sports, est-ce que en ces temps de Covid, est-ce que les travaux peut-être ont pris du retard, où en est-on? Vous m'aviez dit 1 an et demi cet été, donc logiquement, on est à 1 an, si ça n'a pas pris trop de retard.
La Cité des Sports, dans les derniers échanges que j'ai pu avoir avec l'élu, devrait être livrée début de saison prochaine, en septembre, octobre. Voilà, donc ça s'est assuré. Donc on espère vraiment qu'il n'y aura pas du retard supplémentaire ajouté à ces deadlines. Mais voilà, on est confiant et on espère de toute façon, quoi qu'il en soit, on ne peut qu'être attentiste, hein, malheureusement, face à cette crise. Et quoi qu'il arrive, on respectera les délais, mais au moins, on aura un site qui sera à la hauteur de ce qu'on souhaite et qui pourra permettre enfin au club d'avoir une identité et de pouvoir se développer.
Est-ce que juste vous pouvez rapidement décrire pour nos auditeurs un peu ce que contiendra ce site, un nouveau stade, un nouveau centre d'entraînement?
Alors, effectivement, la Cité des Sports, auparavant, c'était le stade Jean-Bouin à Issy-les-Moulineaux qui nous accueillait en vue des JO 2024. Donc, un nouveau projet est né. Et le stade Jean-Bouin a été totalement détruit et aujourd'hui a laissé place à la Cité des Sports hein, qui a été labellisée terre de jeu et qui accueillera des délégations pour les JO 2024. Donc c'est d'une richesse et qui est favorable pour nous parce que c'est de l'élite, évidemment, c'est du haut niveau et ça ne peut que permettre au club du GPSO 92 ici de continuer de se développer et de structurer son image, son club et de créer cette identité qui nous manque un peu en étant un peu éparpillé un peu partout sur ici et d'autres villes avoisinantes.
J'enchaîne sur un autre sujet au niveau économique. Vous êtes surveillé de près depuis un moment par la DNCG, le gendarme financier du football. Il y a un encadrement de la masse salariale. Vous avez dit que votre relation avec votre partenaire s'était développée de la meilleure des manières. Est-ce qu'il y a eu peut-être une augmentation du capital qui vous permet de recruter cet hiver, notamment ?
Non, écoutez, c'est une augmentation du capital, non, mais on a suffisamment été raisonnable pour faire en sorte d'avoir mis en place un échelonnement de nos recrutements et de cette masse salariale. l'idée, c'était de pas faire n'importe quoi, de pas aller trop vite, mais de l'étendre sur la saison. Donc, à partir de là, avec cet encadrement mis en place, hein, et nous, notre projet économique, tout était réuni pour faire en sorte qu'on tienne sur deux phases de recrutement. Et c'est ce qui s'est produit avec la DNCG qui a accepté notre nouveau budget.
Finalement, en plus, on le disait plus tôt dans ce podcast, vous n'avez pas de problème du coup à recruter, à récupérer. On sait que vous avez des ambitions donc pour ce mercato de janvier. Et malgré donc l'encadrement, malgré la situation financière, vous avez des moyens. Ici respire au niveau économique dans cette saison de D1.
Non, on va pas le dire comme ça forcément, mais effectivement, comme je l'expliquais, on a des partenaires comme le département qui nous ont permis d'avoir une bouffée d'oxygène, Grand Paris Seine-Ouest également, et c'est ce qui permet aujourd'hui de faire en sorte qu'on arrive avec un budget qui doit être le plus bas budget, hein, le plus faible budget de la D1, de nous structurer pour faire en sorte d'avoir des recrutements ciblés. Hein, on ne va pas recruter pour recruter, mais vraiment ciblés pour faire en sorte que le budget n'explose pas, mais reste celui qu'on a mis en place. Et on continue, nous, de développer un peu les partenariats, notamment avec 186 Sports qui nous a rejoints, pour effectivement essayer de trouver des partenaires privés et essayer de diversifier nos sources de revenus. Mais voilà, ce n'est pas non plus exceptionnel. On ne va pas avoir un budget extensible, mais on fait en sorte de le gérer de façon économe pour faire en sorte que quand on a besoin, on puisse élargir nos souhaits.
Alors, on va aussi nous élargir un peu le débat. Vous venez de deuxième division, hein. Vous étiez en D2 l'année dernière. Pour vous, donc, ça a été quand même plus qu'une belle histoire sportive, ça a été aussi un grand pas, d'où notamment le changement de nom, ces apports financiers là, dont vous nous parliez, ce passage en D1. Mais voilà, on sait que dans le football au féminin, la frontière est assez fragile, hein, très vite. Tous les clubs ne sont pas professionnels, tous les clubs ne sont pas le PSG et l'Olympique Lyonnais. Et du coup, explorer un petit peu comment vous voyez un petit peu cette frontière-là, et puis aussi votre regard sur cette D2 qui en ce moment est un petit peu dans le grand flou, Nicolas.
Oui, alors en D2, c'est ça, c'est le grand flou, comme dans l'ensemble du football amateur. Le championnat est à l'arrêt depuis le 29 octobre. Depuis, la date de reprise est sans cesse repoussée. Hein, c'est forcément les conditions sanitaires qui obligent. Les joueuses sont dans l'attente. Comme c'était évoqué au mois de novembre dans nos colonnes, les joueuses sous contrat fédéral, donc considérées comme professionnelles, ont vite été autorisées à reprendre l'entraînement individuel et collectif si leur équipe comptait une majorité de contrats fédéraux. Ce n'était pas le cas de toutes les équipes, loin de là. Alors, certains clubs ont bravé l'interdit, certains donc se sont entraînés malgré le fait qu'ils n'avaient pas assez de contrats fédéraux. D'autres n'ont pas pu reprendre du tout, car des préfets l'empêchaient tout simplement dans les régions. Ça a créé un gros mélange et un gros manque d'équité sportive. Une situation qui a d'ailleurs été bien décrite dans un récent article de SoFoot intitulé « Bordel partout, bordel nulle part ». Donc voilà, c'est le grand flou par rapport à ça. Néanmoins, on tente quand même de se projeter vers la reprise. Il y a une date, potentielle reprise du championnat au cours du mois de mars, à la fin du mois de mars, c'est encore très incertain. On devrait en savoir davantage ce jeudi, après la prochaine réunion du COMEX, de la FFF. Un scénario se détache en cas de reprise possible. Ce serait de terminer la phase aller du championnat à partir de mars. Il reste 5 matchs, 6 pour certains qui ont un match de retard pour terminer cette phase aller. Et puis ensuite, un système de play-off pour désigner les promus. Alors, ça n'a rien d'officiel, c'est un scénario qui se détache et on en saura plus prochainement.
Quel est votre regard un peu sur cette situation, Christine Aubert, vous qui étiez il n'y a pas longtemps? Ça vous inquiète aussi, parce que ces clubs-là, ça dépend du scénario bien sûr qui va arriver, mais les futurs clubs promus en D2 pourraient arriver en D1 et feraient un encore plus grand saut finalement en D1. Comme vous d'ailleurs, ça a été un petit peu précipité, hein, puisque les championnats ont été actés, la fin des championnats a été actée par le Covid-19. Quel est votre regard un petit peu. Est-ce que la D2 est un peu une variable d'ajustement, laissée à l'abandon, ça vous inquiète ?
Il est vrai que c'est complexe pour ce championnat de D2 parce qu'on en parle peu d'ailleurs. Il y a pas beaucoup de visibilité pour y avoir été, on le sait, hein, mais je pense que ça va évoluer. On est vraiment dans une mutation hein, de cette pratique hein, au niveau national et je pense qu'effectivement, il faut amener une réflexion autour de ces deux championnats nationaux, D1, D2. Pour pouvoir le faire évoluer, parce qu'on se rend compte qu'il y a une D1 qui est mise en avant, une D2 un peu moins et beaucoup moins. Et aujourd'hui, il faut resserrer tout ça si on veut rester dans l'élite internationale et proche des clubs, des nations qui font le haut de tableau de cette internationale, de cette compétition internationale. Donc, l'idée, c'est effectivement de mettre en valeur la D2. Ça a été au départ proposé, puisque l'aide de la LFP et de la Fédération française de football, qui au début était orientée sur les clubs de D1 Arkema, a été ouvert vers la D2. Et ça, c'est un beau signal. Hein. Et je pense qu'aujourd'hui, il va peut-être falloir réfléchir aussi peut-être à la hiérarchisation des compétitions, peut-être ouvrir une D1 à 14 clubs, donner plus de visibilité, de moyens au championnat de D2 et peut-être créer un niveau intermédiaire de D3 parce qu'on se rend compte que finalement du régional, du football régional de R1 quand il passe en D2, c'est très complexe hein, parce qu'il y a là aussi un fossé avec des obligations qui changent et c'est très, très difficile de pouvoir pérenniser quand on monte de R1 en D2, on fait souvent l'ascenseur comme de D2 en D1 et c'est peut-être autour de cette réflexion qu'il faut arriver à développer un projet qui fasse qu'on puisse peut-être créer une ligue, je ne sais pas, une ligue avec des clubs, des clubs de très haut niveau et puis en dessous de ça, peut-être une D1 ou une D2, je ne sais pas, mais en tous les cas, il faut effectivement réfléchir à un autre développement pour faire en sorte qu'on puisse continuer à avancer au niveau national et international. Et la D2 en fait partie. Voilà, c'est souvent un peu l'oublié, effectivement, on peut le dire, mais parce qu'encore une fois, il y a une visibilité aujourd'hui qui doit être celle de la D1 Arkema. Si on veut faire exister le foot féminin, le sport féminin en général, il y a une vitrine, comme dans un club, il y a une vitrine. Et la vitrine de la Fédération française de football, c'est la D1 Arkema. Mais je sais qu'ils travaillent en parallèle sur l'évolution du championnat et sur la D2 et sur le reste pour faire en sorte qu'on puisse développer intelligemment et sportivement la pratique au niveau du foot féminin.
Et d'ailleurs, parce que vous parlez de grands oubliés pour la D2, les grands oubliés, ce sont aussi toutes ces joueuses-là qui peut-être prochainement seront des joueuses qui seront amenées à jouer en D1 et donc à faire partie de cette vitrine. Or, depuis quelques mois, elles sont dans l'impasse totale. Elles savent pas si elles ont le droit de s'entraîner, si elles peuvent s'entraîner toutes seules, collectivement. Elles ne savent pas quand est-ce qu'elles vont reprendre. Forcément, ça aussi, c'est compliqué quand on est dans cette impasse-là.
C'est compliqué, effectivement. C'est surtout à ne pas occulter parce que si les championnats doivent reprendre, il y a une réathlétisation qui doit être mise en place parce qu'il y a des clubs en D2. Je prends l'exemple d'Arlac Mérignac qui n'ont pas pu reprendre aujourd'hui alors que d'autres clubs ont repris depuis plusieurs semaines. Donc, c'est effectivement, c'est des choses qu'il ne faut pas oublier et occulter surtout. C'est-à-dire que s'il y a une reprise, il faut que ce soit adapté à une réathlétisation, enfin, en tous les cas, une reprise de tout des entraînements communes à tous les clubs. Et ce travail-là doit être mis en place pour bien observer qu'il y ait une équité totale, effectivement.
Surtout, Christine Aubert, que beaucoup de joueuses ne peuvent pas forcément s'entraîner. Ces joueuses ont en plus un emploi du temps à côté. Hein. Elles sont souvent, soit étudiantes, soit elles ont des boulots à côté, des petits boulots à côté. Et comme le disait Nicolas, elles sont amenées après à jouer en D1. En oubliant un petit peu la D2, comme vous disiez, on oublie aussi ces joueuses-là qui sont quand même au deuxième échelon national et qui aspirent à aller plus loin, qui ont des ambitions sportives.
Oui, alors je ne dis pas que la 3F oublie la D2, hein, loin de là. Je dis juste qu'il y avait une vitrine pour faire exister, pour donner une visibilité Au foot féminin, il y avait une vitrine à mettre en valeur. Et c'est ce qui s'est produit avec la D1 Arkema. Aujourd'hui, la Fédé travaille sur la D2 et sur le championnat national avec toutes ses composantes pour effectivement faire en sorte de passer un cap. Et c'est ce qu'il faut se dire aujourd'hui. Alors certes, il n'y a pas de communication autour de cela, mais je pense que ce sera mis en place bientôt. Mais l'idée, c'est vraiment que cette D2 soit de plus en plus mise en valeur. On ne doit pas oublier, il y a plein de joueuses qui évoluent en équipe de France jeunes, qui évoluent dans ces championnats, par exemple, et c'est l'avenir. Donc, même si les championnats se professionnalisent de plus en plus, le football amateur, tel que la composante de notre D1 Arkema et de nos championnats nationaux l'est, fait qu'il faut qu'on le construise. Il faut qu'on le construise et qu'on maintienne cette rigueur qu'on a eue jusqu'à maintenant, cette explosion qu'on a eue de licenciés, et qu'aujourd'hui, maintenant, on passe ce cap structurel pour faire en sorte qu'on s'épanouisse au niveau national et international, et qu'on stagne pas.
Une dernière chose, Christine Aubert, comment ça fonctionne dans votre club, justement, avec vos joueuses? J'imagine que de toute façon, elles ne vivent pas que du football, elles font autre chose à côté. Comment est-ce que vous organisez, que vous harmonisez un petit peu les emplois du temps entre le sportif, hein, le dévouement au club et leurs emplois du temps personnels?
Alors, l'idée du club, ça a toujours été le double projet. Maintenant, on sait que ça, c'était possible encore en D1 il y a quelques années. Aujourd'hui, on voit bien que les équipes contre lesquelles on joue sont à majorité professionnelles, c'est-à-dire qu'elles s'entraînent la journée et finalement, elles sont contractuelles pour jouer, pour vivre de ce sport, hein, et ne se consacre qu'à ça. Nous, notre modèle est un peu différent, même si on tend vers ça. Pour l'instant, il n'en est pas question parce qu'on n'a pas les moyens de pouvoir mettre en place ce projet-là. Donc, les joueuses travaillent, hein, pour certaines, et s'entraînent le soir. Hein, et puis, pour d'autres, effectivement, elles sont contractualisées, donc elles vivent de leur passion et sont consacrées et sont à disposition du club toute la journée et peuvent s'entraîner en journée également, mais c'est pas la totalité de nos joueuses qui vivent, enfin qui s'entraînent le matin ou la journée. Il y en a, voilà, pour nous notre conception c'est les entraînements le soir. Alors oui, certes, quatre entraînements en soirée et puis un en matinée dans la semaine, voilà. Donc c'est encore une fois la stratégie qu'on a pu mettre en place et pour s'adapter aux joueuses et à leur double projet, parce qu'on sait aujourd'hui qu'une joueuse ne fera pas de son sport forcément la seule rentrée économique au quotidien pour elle. Donc, si elle se blesse demain, il n'y a plus rien. L'idée, c'est vraiment qu'elle puisse avoir ce double projet et par la suite essayer de développer effectivement, de se rendre un peu plus professionnelle, développer cette professionnalisation pour faire en sorte qu'on puisse avoir une équipe qui puisse se consacrer et des joueuses qui puissent se consacrer qu'à leur sport.